vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Restons courtois, Marc Hainaut.
Et bonsoir à nouveau chers auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de Restons courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles sur l'antenne de Radio Courtoisie. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Vendry de Guerpel et nous accueillons Philippe Darentière. Jour de l'ascension oblige, tournons-nous donc déjà vers la Pentecôte. Maintenant que le Christ est remonté au ciel, il ne nous reste plus qu'à attendre l'Esprit Saint, les Cosaques et le Saint-Esprit, même pour paraphraser Léon Blois. Et quel meilleur invité que le nôtre pour évoquer le prochain week-end, quand certains travailleront gratuitement pour la solidarité nationale, d'autres marcheront gratuitement pour le salut de nos âmes. Bonsoir Philippe Darentière.
Bonsoir Marc Hainaut.
Donc vous êtes chef d'entreprise, essayiste, vous êtes président de l'association Notre-Dame de Chrétienté depuis le 18 janvier 2025. On rappelle que le pèlerinage de Chartres a accueilli pour son édition 2025 près de 19 000 pèlerins. Première question, donc c'est un chiffre en constante augmentation. Est-ce qu'il sera dépassé cette année ?
Oui, il devrait être légèrement dépassé, mais nous touchons aux limites de l'organisation puisque nous sommes tenus de faire circuler en une journée, à peu près 20 000 pèlerins entre le lever du jour et le coucher du soleil, et ceci sur une distance évidemment qui est à parcourir, puisque nous avons à peu près une centaine de kilomètres entre Paris et Chartres. Mmh. Voilà, donc toutes ces contraintes logistiques pèsent sur la capacité de croissance en l'état des itinéraires que nous pratiquons. C'est pourquoi nous aurons effectivement une légère croissance des effectifs cette année, mais non pas une explosion.
C'est effectivement le revers de la médaille. La bonne nouvelle, c'est que cela accueille de plus en plus de monde. J'avais cru comprendre, lire quelque part, que vous étiez engagé dans cette association, dans ce pèlerinage depuis 1989. Donc quel regard vous portez justement sur cette évolution en plus de 35 ans d'existence ?
Alors évidemment, la croissance des effectifs est certainement le phénomène le plus marquant. Un autre point d'observation pour moi, c'est la continuité même de ce pèlerinage. Depuis 1989, effectivement, où j'ai pris pour la première fois la route de Chartres, eh bien, je dirais que le pèlerinage n'a pas fondamentalement changé. Il conserve son identité propre et ce caractère, immuable, hein, de ce pèlerinage qui, année après année, se renouvelle et en même temps se perpétue. Eh bien, je crois que c'est aussi un fait tout à fait marquant. Et sans doute qui contribue à son attraction.
Vendry de Guerpel.
Oui, et petite nouveauté cette année, vous avez mis en place, il me semble, la route Jérusalem, qui est une route plus courte et adaptée aux personnes à mobilité réduite ou qui ont des difficultés. Est-ce que c'était aussi une manière, eh ben, effectivement, de rendre plus accessible ce pèlerinage de Chartres?
Oui, il y avait effectivement deux ambitions. La première était de permettre à des pèlerins qui ont fait le pèlerinage de Chartres il y a quelques années, mais qui avaient cessé de le faire précisément pour des raisons d'âge, de fatigue, de récupération plus lente compte tenu de l'âge de certains. Et nous voulions leur offrir la possibilité de refaire le pèlerinage en marchant. Et puis, la deuxième motivation, c'est que notre pèlerinage a toujours été un pèlerinage intergénérationnel. Dès les origines, des familles étaient présentes et toutes les générations étaient représentées. Et il n'a pas échappé aux observateurs que depuis quelques années, le pèlerinage avait tendance à se rajeunir, en tout cas sur la route principale des pèlerins marcheurs. Et il était justifié donc que nous puissions retrouver également ce caractère intergénérationnel au pèlerinage.
On rappelle que ce qui fait une des spécificités de ce pèlerinage de Chartres, c'est que c'est un lieu du rayonnement de la liturgie traditionnelle. On y célèbre la messe selon le missel de Saint-Pie V. On sait qu'avec le pontificat du pape François, les relations ont pu être tendues avec Rome, avec l'Église de France, puisque le pape François est revenu sur le fameux motu proprio de son prédécesseur Benoît XVI. Quel regard portez-vous sur ces années et sur la façon justement dont votre association les a appréhendés?
Alors, paradoxalement, le motu proprio traditionnis custodes du pape François, qui restreint de façon drastique l'accès à la liturgie traditionnelle, a coïncidé avec l'augmentation extrêmement sensible de nos effectifs, comme si les pèlerins avaient choisi de voter avec leurs pieds, comme on dit parfois, et de rejoindre un pèlerinage dont l'identité liturgique est très clairement celle de la tradition de l'Église et de la liturgie tridentine, alors même que l'accès à cette liturgie était rendu plus difficile dans beaucoup de diocèses. Nous avons effectivement dû maintenir le cap, alors que cette position suscitait à minima des incompréhensions et parfois même une certaine forme d'hostilité.
Alors, le pape Léon XIV occupe aujourd'hui le trône de Saint-Pierre. On a l'impression. Alors, c'est très compliqué de se faire une opinion tranchée sur ce début de pontificat, puisque il y a énormément de choses qui sont, il y a énormément de choses qui se mettent en place. Et c'est vrai que là où le pape François était un habitué on va dire de sorties assez régulières, le pape Léon XIV n'est pas dans une hypercommunication. Donc, il faut s'attacher à vraiment tout décrypter. Néanmoins, on a l'impression que ce dernier semble être plus dans la continuité de Benoît XVI et semble vouloir apaiser les relations, en tout cas, peut-être avoir un point de vue peut-être un peu plus ouvert que celui du pape François sur cette question. Est-ce que c'est votre
Alors,
opinion aussi, Philippe Darentia?
on le souhaite bien sûr et on attend tous, je dirais même avec une certaine impatience, que cette question de la liturgie puisse être clarifiée par le successeur du pape François. Au fond, tous les derniers papes, depuis Jean-Paul II, ont eu à se prononcer sur cette question de la liturgie. Le pape Jean-Paul II l'avait fait avec un motu proprio, Ecclesia Dei, qui était un acte de miséricorde s'adressant aux fidèles et aux prêtres et religieux attachés à l'ancienne liturgie dans un contexte particulier qui était celui des consécrations épiscopales de 1988. Ensuite, le pape Benoît XVI a voulu donner un fondement doctrinal à l'accueil de cette liturgie, dont il disait lui-même qu'elle n'avait jamais été abrogée et qu'il n'était pas possible de la supprimer. Et il a donc formulé la notion de l'unique rite romain avec ses deux formes, la forme ordinaire et la forme extraordinaire. Et il a élargi aussi l'accès à cette liturgie en confiant aux prêtres le soin d'accueillir des communautés stables de fidèles, des groupes stables de fidèles, de façon à répondre à leurs besoins. Alors qu'auparavant, c'était les évêques qui avaient cette responsabilité. Le pape François revient sur une responsabilité liturgique confiée strictement aux évêques, et il a sorti cette responsabilité d'un certain nombre de restrictions s'agissant de l'ensemble des liturgies des sacrements, puisque finalement seuls la liturgie du sacrement de l'Eucharistie, donc la Sainte Messe, tolérée, et les autres sacrements sont réputés devoir se soumettre à la réforme liturgique.
Ouais.
En plus, il y a d'autres restrictions, parfois un peu mesquines, du genre les horaires des messes selon le rite traditionnel ne pourront pas être inscrits au bulletin de paroissial, enfin bon, des choses comme ça.
Des escarmouches un petit peu dérisoires, quoi.
Évidemment, on attend de sortir de cette situation, et le pape Léon XIV a effectivement adressé un signal en ce sens quand il a écrit, par l'intermédiaire du cardinal Parolin, à la conférence des évêques de France réunie en assemblée plénière à Lourdes au mois de mars. Donc nous attendons évidemment que tout ça maintenant se traduise dans les faits.
Alors c'est encore une rumeur, mais qui est assez solide. Le pape Léon XIV, contrairement à son prédécesseur François, pourrait se rendre faire une visite apostolique officielle en France, à Paris. Il se murmure aussi que Lourdes pourrait faire partie de cette destination. Est-ce que, on suppose que vous accueillez ça de manière assez positive, on suppose que l'association Notre-Dame de Chrétienté est ravie de ce déplacement. C'est un souhait de votre... voilà, quelle est votre réaction suite à la décision a priori du pape de se rendre à Paris, de se rendre en France, officiellement cette fois?
Voilà, c'est ça. On est au-delà de la rumeur, puisque maintenant c'est officiel. Des invitations ont été faites et le Saint-Siège a répondu. Et donc, la date du 23 septembre est déjà annoncée.
Absolument.
Pour cette visite du Saint-Père en France, avec pour l'instant des premières destinations annoncées qui sont Paris et Lourdes, et peut-être deux autres lieux qui pourraient être également les lieux d'accueil du Saint-Père lors de cette visite en France. Alors, Paris et Lourdes, c'est évidemment des symboles importants parce que en 1980, le pape Jean-Paul II est venu en France, pour la première fois depuis 1814, si je ne fais pas d'erreur, eh bien, il est venu à Paris. Voilà, Paris, pour adresser ce fameux message: « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?» Et donc, c'était vraiment un événement extrêmement marquant. Et puis, trois ans plus tard, le pape vient à Lourdes, et là, pour le 125e anniversaire des apparitions, il a un message sur le sens chrétien de la souffrance, qui est également un message très profond. Et puis Paris et Lourdes sont également deux destinations plus tard du pape Jean-Paul II. En 1997, ce sont les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse à Paris. Et enfin, son dernier pèlerinage en tant que malade, il vient en 2004 à Lourdes. Et puis Paris et Lourdes, c'est également les destinations choisies par le pape Benoît XVI lorsqu'il vient en France en 2008. Voilà. Et donc, au fond, il y avait une forme d'anachronisme à ce que le pape François n'ait fait que visiter en quelque sorte des périphéries de notre pays, faisant un saut de puce à Strasbourg, mais pour l'Union européenne, venant à Marseille, mais pour la Méditerranée, ou encore en Corse, de façon à, et là encore, une île de Méditerranée qui soit visitée. Le pape Léon XIV n'a pas visiblement ce genre de subtilité. Et il vient officiellement en France et pour l'instant à Paris et à Lourdes.
Vendredi de Yarpel. Et
pour compléter, le pape François qui n'était pas venu à la réouverture de Notre-Dame de Paris, peut-être avait-il le sentiment que c'était une cérémonie d'ouverture consacré uniquement à Emmanuel Macron, et donc il ne voulait pas se mettre dans ce bourbier-là.
C'est-à-dire qu'il élève l'exemple de son prédécesseur.
Exactement.
Qui a dû assister impuissant au sacre de Napoléon et qui a fini enfermé en France, donc il n'a peut-être pas voulu rééditer l'exploit.
Exactement. Bon, j'avais une autre question pour vous. Comment est-ce que vous expliquez le regain de la jeunesse française pour la messe tridentine, pour le rite tridentin? Et d'ailleurs, ça se voit effectivement au pèlerinage de Chartres que vous organisez. Oui, il y a un rajeunissement, vous l'avez expliqué. Comment est-ce que vous l'analysez, ça?
Alors, il y a évidemment de nombreux facteurs d'analyse. Je dirais qu'en premier lieu, nous avons une jeunesse aujourd'hui qui est finalement assez décomplexée par rapport à cette question liturgique qui a pu être l'objet d'un clivage au sein de l'Église avec la manifestation très nette d'un rejet de la liturgie traditionnelle qui était considérée par certains comme interdite ou bien anachronique et qui n'avait plus sa place. Eh bien, finalement, les jeunes catholiques pratiquants apportent un démenti à cette vision et ils manifestent effectivement leur souhait que la liturgie apporte autre chose qu'une forme d'auto-célébration de la communauté autour du président de l'Assemblée. Je crois que la liturgie traditionnelle offre cette entrée de plein pied dans le mystère sacré qui est célébré et met finalement toute l'assemblée derrière le prêtre en présence du Christ lui-même. C'est le sens de la messe ad orientem, comme on dit, donc le prêtre tourné vers le Seigneur, c'est-à-dire les fidèles et le prêtre tournés dans le même sens, dans la même direction. Cette direction, eh bien, c'est le Seigneur. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui effectivement parle à cette génération. Il y a un phénomène que je souligne volontiers parce qu'il est pour moi extrêmement intéressant, c'est que pour la première fois depuis la réforme conciliaire, il y a des jeunes qui aujourd'hui demandent le baptême et entrent dans l'Église directement par la médiation de cette liturgie traditionnelle. Ils choisissent de se faire baptiser et ensuite ils vont vivre leur vie sacramentelle eh bien, dans des communautés attachées au vétus ordo. Un phénomène qui n'avait évidemment pas été envisageable depuis maintenant plus de 60 ans et qui se produit sous nos yeux, c'est un signe d'espoir.
Merci beaucoup, Philippe Dantin. Alors, dernière question, parce que pour nos auditeurs qui ne font pas forcément la différence, parce que tout le monde ne connaît pas encore ce pèlerinage, il y a le pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté qui fait Paris-Chartres, il y a aussi la fraternité sacerdotale Saint-Pédis qui lance ses troupes, elle qui fait le pèlerinage dans l'autre sens, qui fait Chartres-Paris. Alors, pour le coup, si ça pourrait se réchauffer, pour la faire schématiquement entre les tradis et le Vatican. Évidemment, la relation est plus que glaciale aujourd'hui entre la fraternité sacerdotale Saint-Pédis et le Vatican, puisque si ces derniers sacrent de nouveaux évêques, le Vatican actera l'impasse et brandit déjà la menace du schisme. Comment analysez-vous cette situation qui rappelle, vous l'avez évoqué, la situation de 1988? En somme, une réédition.
Oui, alors je me garderais bien de pouvoir vous proposer une analyse. Je pense qu'effectivement, cette situation, elle est douloureuse. Elle rappelle pour ceux de ma génération, en tout cas, à quel point des familles ont pu être blessées, divisées par cette perspective à l'époque qui s'était donc réalisée, matérialisée, qui a fait ensuite l'objet, eh bien, d'un long travail de rapprochement opéré en particulier par le pape Benoît XVI. Et puis aussi, rappelons-le, par le pape François, qui avait accordé des assez grandes facilités d'accès aux sacrements pour les prêtres de la fraternité Saint-Pédis, et notamment la reconnaissance de leur pouvoir de confession. Voilà, donc un retour en arrière qui pourrait s'opérer. Tout ça est entre les mains du Saint-Siège d'une part et des supérieurs de la fraternité Saint-Pédis. Eh bien, prions pour l'unité de l'Église. Nous avons sans doute beaucoup de choses que nous partageons dans les analyses concernant la crise de l'Église avec la fraternité Saint-Pédis. Nous avons en partage aussi cet amour de la liturgie traditionnelle. Et donc, nous sommes particulièrement sensibles à la nécessité de prier pour l'unité en ces temps.
Merci beaucoup Philippe Darentière, président de l'association Notre-Dame de Chrétienté. On rappelle que le pèlerinage de Chrétienté se tiendra comme tous les ans pendant le week-end de la Pentecôte. Donc le week-end prochain, plus de 19 000 pèlerins devraient s'élancer de Paris à Chartres. Un très bel événement dont je suis sûr que vous pourrez suivre les moments forts avec notamment Radio Courtoisie et Valeurs Actuelles. Merci à vous Philippe Darentière, à très bientôt. Restez avec nous chers auditeurs puisque dans quelques instants nous allons parler politique avec notre politologue maison Guillaume Bernard. Guillaume Bernard, bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, également chroniqueur chez Valeurs Actuelles. Restez avec nous, mais tout d'abord un dernier message de votre radio.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75016, Paris.
Restons courtois, Marc Hainaut.
Et de retour à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons courtois, chers auditeurs, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis toujours en plateau avec Vendry de Guerpel. Nous accueillons le politologue Guillaume Bernard. Bonsoir Guillaume, comment allez-vous?
Bonsoir Marc. Eh bien écoutez, je vais bien et je vous remercie de m'avoir fait participer à votre émission. Vous venez de me sortir d'une partie de belote que j'étais en train de perdre lamentablement. Et donc, par conséquent, effectivement, Dieu soit loué, vous me faites travailler le jeudi de l'Ascension pour éviter la bérésina.
Bravo, bah écoutez, on savait qu'au fond, cette invitation vous rendrait service. On va voilà. Parler évidemment politique avec vous, mais on va d'abord parler littérature, puisque vous publiez aux éditions de L'Homme Nouveau un court roman, Vous n'aurez pas la pucelle de Lorraine, un ouvrage que vous présentez qui est présenté en tout cas comme le testament posthume de Sainte Jeanne d'Arc. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Écoutez, avec plaisir. Ben, vous savez que depuis quelques années, j'ai renoué avec mes amours de jeunesse pour la littérature. Et donc, je publie avec ce nouvel ouvrage eh bien, quelque chose qui combine quelques talents littéraires mineurs avec des connaissances historiques en histoire des idées ou en histoire des institutions. En l'occurrence, il s'agit de ce qui s'est passé en 1920. En France, après la Première Guerre mondiale, il y a eu la canonisation de Jeanne d'Arc, qui est le résultat d'un long aboutissement d'études lancées par Mgr Dupont-Loup au milieu du XIXe siècle. Et la même année, quelques mois plus tard, a été votée par la Chambre des députés à l'unanimité une loi sur le patriotisme, une loi en l'honneur de Jeanne d'Arc qui crée une deuxième fête nationale le dimanche qui est le plus proche de la date du 8 mai, puisque le 8 mai 1429, c'est le jour où Jeanne d'Arc a levé le siège de la ville d'Orléans et a donc permis par la suite à Charles VII d'être sacré à Reims. Et donc, 1920, c'est le débat, qui est l'héritier légitime de la Jeanne d'Arc ? Est-ce que ce sont les blancs royalistes ? Est-ce que ce sont les bleus républicains ? Est-ce que ce sont les rouges qui commencent à pointer leur nez dans la vie politique française ? Voilà l'objet de ce dialogue viril.
Alors maintenant, ce sont les arcs-en-ciel qui en font une icône queer, Guillaume Bernard. Hein, je vous rappelle qu'il y a l'héritage de Jeanne d'Arc est extrêmement contesté. Très bien, écoutez, en tout cas, on invite les auditeurs à se procurer ce livre qui évidemment revient du coup sur cette grande contradiction historique. On est d'accord, hein, c'est les blancs.
Oui, je pense que ce sont les blancs qui sont les vrais héritiers. Ouais. Pour autant, je crois qu'il faut être honnête et reconnaître que dans Jeanne d'Arc, il y a bien sûr la catholique, il y a bien sûr celle qui a permis à Charles VII, donc à un roi, d'être reconnu comme le chef d'État légitime, mais il y a aussi la fille du peuple. Il y a aussi effectivement la femme qui assure la cohésion nationale. Et donc, je crois que ce n'était pas inintéressant d'essayer de croiser les différents arguments de ces camps politiques-là.
Absolument, en tout cas, c'est ce qui a fait... C'est ce genre de débat qui devient progressivement un symbole des contradictions de l'histoire de France et de ce qui peut nous diviser, mais aussi ce qui peut nous rassembler. On va parler grand remplacement, Guillaume Bernard, mais pas n'importe lequel. Celui qui a lieu en Grande-Bretagne, puisque ça a été le sujet d'une de vos chroniques sur Valeurs Actuelles. Bouleversement politique en Grande-Bretagne, puisque les deux partis historiques, c'est-à-dire les conservateurs et les travaillistes, sont sur le point d'être remplacés par d'autres forces politiques, si on en croit les dernières élections.
Oui, c'était des élections locales. Alors, au Royaume-Uni, c'est relativement compliqué parce que, vous le savez, c'est à la fois un État unitaire, mais c'est un État qui pratique une décentralisation relativement forte et même quasi un fédéralisme, puisque au Pays de Galles et en Écosse, il y a des institutions locales puissantes et spécifiques. Donc, il y a trois modes de scrutin différents. Il y avait l'élection à l'Assemblée écossaise, à l'Assemblée galloise et puis dans les municipalités, mais enfin ce sont des très grandes municipalités au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne. Il s'avère que en Écosse, le parti indépendantiste reste puissant. Qu'au Pays de Galles, le Labour qui dominait a été, laminé en particulier par les autres forces politiques de gauche et notamment les Verts. Et qu'en Grande-Bretagne, c'est incontestablement Reform UK, donc de Nigel Farage, qui arrive incontestablement en tête.
Si on devait le placer politiquement, Nigel Farage, avec un point de vue français, ce serait quoi ? Ce serait un espèce de Nicolas Dupont-Aignan, grosso modo ?
C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Là, vous me demandez de donner des satisfecit aux uns et aux autres. C'est quelqu'un qui est à la
Bah,
fois sur
l'avantage de
une
Nicolas Dupont-Aignan, c'est que c'est une zone neutre, si vous voulez. C'est ni
Non.
Reconquête, ni le RN. Vous voyez, on est sur quelque chose d'assez central.
On est dans une combinaison, je dirais, de différents éléments, c'est-à-dire que dans Farage, il y a du populisme du type Rassemblement national, mais en même temps, il y a des positions, je dirais, économiques plutôt, allez, pour dire rapidement les choses, plutôt libérales, qui ressemblent quand même plutôt à Reconquête. Et en même temps, il y a évidemment la défense, je dirais, de l'autorité de l'État. Et alors, dans ce cas-là, il y a le côté gaulliste de Nicolas Dupont-Aignan ou de Florent Philippot. Voilà. Il est clair que Reform UK, c'est une force politique qui est incontestablement à droite et peut-être même de droite, et qui, comment dire, réussit à aspirer des électeurs venant de la gauche sans pour autant chercher à les flatter avec l'idée de l'État-providence. Donc ça, c'est quand même une leçon pour nous qui pourrait être relativement intéressante. Il est clair qu'aujourd'hui, Reform UK représente grosso modo 30% de l'opinion publique, dans la mesure où les élections législatives, puisque il n'y a pas d'élection du chef de
Bien
l'État hein,
sûr.
au Royaume-Uni,
Oui,
les
d'ailleurs,
élections
le Premier ministre Keir
législatives...
Starmer a d'ailleurs balayé de toute idée de démission à ce stade. Oui.
À ce stade. En tout cas, au plus tard, les élections législatives auront lieu en 2029 et il y a un mode de scrutin pour le Parlement de Westminster, pour la Chambre des communes, qui est intéressant, qui est un mode de scrutin que personnellement je soutiens, qui est le mode de scrutin majoritaire à un tour. C'est-à-dire que c'est celui qui arrive en tête dans la circonscription qui emporte cette circonscription. On peut penser que dans l'état actuel des choses, Reform UK pourrait avoir un succès électoral extrêmement important et pourrait même vraisemblablement emporter les élections, devenir majoritaire à la Chambre des communes, ce qui signifierait qu'il y ait potentiellement comment dire, une nouvelle transformation, je dirais, du spectre politique britannique. Pour dire les choses très rapidement, au 19e siècle, ou disons jusqu'au 19e siècle, on a les conservateurs et les libéraux. À partir de la fin du 19e siècle, émergence du Labour. Dans l'entre-deux-guerres mondiales, eh bien, on a quasiment un tripartisme avec le Labour, les libéraux et les conservateurs. Et après la Seconde Guerre mondiale, disons dès le milieu des années 1930, mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien à nouveau un bipartisme avec des libéraux qui sont très en retard, très, très en arrière, qui représentent une force subalterne, et puis les deux grandes forces politiques, le Labour et les conservateurs. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Ben, si Reform UK réussit comment dire, à devenir l'une des principales forces politiques,
À
ben, ça
transformer
veut
l'essai,
dire
oui.
que, et ça veut dire qu'il y a un reformatage du bipartisme. La question est de savoir, est-ce que la deuxième grande force politique, ce sera le Labour? Ou est-ce que ce sera les conservateurs? Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Il est vraisemblable que les conservateurs britanniques soient un peu moins bêtes que la droite française et que eux, eh bien, d'une certaine manière, réussissent comment dire, à trouver un modus vivendi avec Reform UK et à constituer une force politique à droite qui deviendrait effectivement extrêmement puissante, que les conservateurs soient peu ou prou absorbé par Reform UK. On verra bien. Donc, ça voudrait dire qu'a priori, c'est plutôt la gauche, le Labour et les Verts qui deviendraient l'autre pôle politique. Mais bon, pour l'instant, on est encore dans
Tout
l'expectative.
reste ouverte. On va revenir en France, Guillaume Bernard, puisqu'il y en a une qui commence à être lassée de s'expliquer sur sa potentielle candidature à l'élection présidentielle, c'est Marine Le Pen. Elle l'a déclaré d'ailleurs sur RTL ce mercredi 13 mai. On ne va pas le répéter 200 fois, ça commence à lasser. Marine Le Pen a tenu à repréciser. Elle sera candidate à l'élection présidentielle si et seulement si la peine de prison et du sursis, c'est-à-dire si cela exclut par exemple le port d'un bracelet électronique parce que Il est coutume de dire qui imagine le général de Gaulle faire campagne avec un bracelet électronique. En tout cas, Marine Le Pen, si elle est condamnée à de l'inéligibilité et à de la prison, bien évidemment, elle ne sera pas candidate. En revanche, si cette peine est muée à du sursis, elle pourrait elle-même être sur la ligne de départ à l'élection présidentielle. Dans l'absolu, elle précise les modalités, mais ça ne nous éclaire pas plus sur qui sera candidat du Rassemblement National en juillet, Guillaume Bernard.
Ben non, il est clair que là, c'est une décision de justice qui choisira d'une certaine manière le candidat. Il est certain quand même, enfin moi je peux comprendre Marine Le Pen dans son agacement. Très sincèrement, l'interroger sans arrêt sur cette question, dans la mesure où les caciques, la direction du RN avait déjà annoncé quelle serait, l'alternative et quelles seraient les conditions de l'alternative, les réinterroger une nouvelle fois, c'est quand même un peu retourner le couteau dans la plaie. Bon. Le plus vraisemblable, mais encore une fois, il ne s'agit pas de ressortir l'archive dans 6 mois en disant « vous êtes complètement trompé ». Mais enfin, le plus vraisemblable, c'est que Marine Le Pen soit condamnée et peut-être à une peine inférieure à celle à laquelle elle a été en première instance, mais ce qui ne lui permettrait pas de faire campagne. Le plus vraisemblable est donc que ce sera Jordan Bardella qui sera candidat du Rassemblement National. Voilà. Pour ce camp-là, en tout cas, le candidat le plus à même, je dirais, d'être au deuxième tour paraît clairement déterminé. Pour ce qui est de la gauche, c'est à peu près clair. Je dirais, c'est quand même plutôt Jean-Luc Mélenchon qui a le plus de chances d'être dans le camp de gauche.
Alors, lui, vous ne croyez pas, parce que là, on voit que ça bouge. Alors, ça bouge beaucoup au Parti socialiste, c'est-à-dire que ça ne concerne pas grand monde, bien évidemment. Néanmoins, il y a quand même un espace qui est en train de se dégager, un espace que pourraient occuper Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, François Hollande, avec peut-être pour ce dernier une capacité, celui d'être un ancien président de la République. Lui qui est donc peut-être le seul assez épais pour aller défier Jean-Luc Mélenchon. Guillaume Bernard.
Alors, j'allais terminer ma phrase en disant il a plus de chances, Jean-Luc Mélenchon, d'être au second tour que Fabien Roussel.
Oui, c'est
toute
vrai.
Toute la question, c'est de délimiter l'espace de la gauche. Est-ce que le Parti socialiste, Glucksmann, Place publique, François Hollande, est-ce qu'en fait il faut les identifier comme étant des candidats de la NUPES, du Nouveau Front Populaire, ou est-ce que ce sont des candidats alternatifs à un candidat de centre-droit que serait Édouard Philippe. Moi, j'ai quand même plutôt tendance à penser que les espaces politiques sont ceux de la gauche et de la gauche radicale, puis celui de la grande coalition des modérés. Et donc, c'est vrai que je mettais plutôt Hollande comme candidat concurrent d'Édouard Philippe que comme candidat concurrent de Jean-Luc Mélenchon. Là où il va y avoir le plus, je dirais, de difficultés à voir les choses, et on aura quelque chose de plutôt clair que relativement tard, me semble-t-il, dans la campagne, parce qu'ils vont tous tenter leur candidature et pour essayer, je dirais, de se faire mousser, c'est qui va se dégager pour le camp central. Est-ce que ce sera plutôt Édouard Philippe ou est-ce que ce sera plutôt un candidat de gauche modéré? Écoutez, sincèrement, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment le dire. En revanche, il est clair que le système politique joue un peu son avenir dans la mesure où il semblerait quand même que seul un candidat de la coalition des modérés soit en capacité de vaincre le candidat du Rassemblement National.
Ouais.
Bon, le candidat du Rassemblement National, le problème, il arrivera par la suite. C'est-à-dire, il arrivera une fois qu'il est élu, une fois qu'il a les manettes. Est-ce qu'il est vraiment en capacité de mener la politique qu'il envisage de faire?
Oui, alors il y a quand même aussi, Guillaume Bernard, vous anticipez énormément de choses, il y a aussi la question du second tour, Vendry de Garpel.
Mais bien sûr, il y a cette question du second tour et du retour de ce fameux cordon sanitaire. Donc effectivement, le candidat du centre qui apparaîtra le plus modéré, donc le plus sérieux pour les Français, en fait, voteront pour lui. Et de fait, passer le second tour paraît assez compliqué pardon, pour le Rassemblement national. J'aimerais revenir sur ce qui se passe à gauche. Effectivement, cette semaine, on a eu l'histoire de la note secrète de Raphaël Glucksmann qui a fuité dans
Absolument.
la presse, où en fait, on voit très bien qu'avec Nathalie Denante, vous savez, qui est l'électrice. Robot de Raphaël Glucksmann.
Je fais juste une petite incise, cher Vendry, pour préciser à nos auditeurs. A fuité dans la presse effectivement une note à l'attention d'une éventuelle campagne présidentielle de Raphaël Glucksmann, où cette note certifiait qu'il ne fallait surtout pas viser comme potentiel électoral les jeunes de 18-25 ans, les personnes issues d'immigration et les personnes de la ruralité.
Les bacs moins 10.
Ce qui fait que ça laissait plus grand monde et qu'évidemment Raphaël Glucksmann a nié que cet outil de travail allait être inclus dans sa campagne. Je vous laisse poursuivre,
Vendry. Et donc on avait des électeurs, des portraits robots d'électeurs, donc parmi lesquels Nathalie Denante, qui est professeure à Nantes, qui aime bien Léa Salamé, qui d'ailleurs est la compagne de Glucksmann. Et puis il y avait, alors je ne sais plus
bien
quel prénom ils avaient trouvé, mais pour un jeune ingénieur qui lui hésitait entre Gabriel Attal, Edouard Philippe et Raphaël Glucksmann. Et donc là on voit bien le positionnement et l'espace dans lequel peut évoluer Glucksmann, qui est quand même, qui me semble-t-il, est assez restreint en réalité.
Guillaume Herman.
Oui, non, mais il est clair que ces différents candidats vont avoir essentiellement pour objectif d'atteindre le second tour, étant entendu que plus il y aura de candidatures, et c'est à mon avis ce qui fait que elles vont durer relativement longtemps, plus il y aura de candidatures, plus le seuil de qualification sera bas. Ils vont essayer sans doute de faire jouer en leur faveur le vote utile en utilisant l'argument selon lequel eh bien, leur présence au second tour permettra une victoire du camp des modérés contre les méchants extrêmes que sont Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella. La campagne, elle va essentiellement porter, me semble-t-il, sur qui est en capacité d'empêcher les, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, anti-système d'arriver au pouvoir.
Alors, il se pose aussi la question, quand on prend la droite, alors on a vu une flopée de candidatures, enfin en tout cas la droite, le souverainiste compris. Alors là, si je résume, on a donc Marine Le Pen ou Jordan Bardella pour le Rassemblement National, on a Nicolas Dupont-Aignan, on a Florian Philippot si et seulement si Philippe de Villiers n'est pas candidat, et même chez Reconquête, on a une incertitude, on va dire, entre Éric Zemmour et Sarah Knafo. On a vu qu'à gauche, le créneau entre Jean-Luc Mélenchon et Bruno Retailleau, pour faire simple, était extrêmement disputé. Est-ce qu'il y a pas le même sujet à droite aussi, Guillaume Bernard?
Alors oui et non, dans la mesure où, du moins dans les sondages, l'avance du candidat du Rassemblement national sur tous ses autres concurrents est telle que ne devrait pas l'empêcher d'atteindre le second tour. Du coup, ça permet l'émergence de candidatures. Moi, il me semble que le Rassemblement national aurait intérêt, non pas pour, je dirais, la campagne, mais en revanche, ensuite, pour l'exercice du pouvoir, d'organiser une primaire dans laquelle, bien sûr, le RN l'emporterait, mais ce qui lui permettrait d'expliquer pourquoi, dans un souci de coalition gouvernementale, eh bien, le programme du RN évoluerait dans un sens ou dans un autre sur tel ou tel point. C'est par souci, je dirais, d'efficacité dans l'éventuel gouvernement que cette primaire serait utile. Mais évidemment, s'ils ne raisonnent que d'un simple point de vue électoral, s'ils sont à plus de 30% avec 15 points d'avance sur leurs concurrents directs, il est évident que la présence de Dupont-Aignan, de Florian Philippot ou que sais-je encore, d'un candidat qui ferait entre 1 et 3 %, eh bien évidemment, ça ne les handicapera pas vraiment.
Très rapidement, Guillaume Bernard, pour conclure, au fond, ce qui vous inquiète, c'est plus les élections législatives après l'élection présidentielle.
Oui, parce que là, pour le coup, rien ne nous dit que le phénomène majoritaire fonctionnera. En deux mots, hein, c'est promis, je suis rapide. Le principe, c'est qu'un président de la République
nouvellement élu... Il reste une minute, élu, de toute façon, Guillaume, donc...
nouvellement élu, un président de la République nouvellement élu a une majorité. Alors, plus ou moins large, mais il a quand même une majorité. Ça a commencé à s'effilocher avec Hollande, et donc en, 2000, en 2012, et puis avec Macron en 2022. En revanche, on a eu des cas où les présidents n'avaient plus de majorité lorsque les législatives avaient lieu plusieurs années après leur propre élection. Bon, bah, c'est le cas de Macron en 2024 avec la dissolution. Ça a été le cas de Mitterrand en 86, en 88, en 93, et puis de Chirac en 97. Le gros risque pour le système, mais bon, moi, écoutez, si le système doit s'effondrer, tant pis, hein. C'est pas moi qui vais pleurer. Je vous le cacherai pas, mais le gros risque pour le système, c'est que un président de la République nouvellement élu, qui normalement devrait avoir une majorité, eh bien, n'en est finalement pas. Alors là, évidemment, ça bloquerait immédiatement, je dirais, le fonctionnement démocratique, c'est clair.
On ne sait pas où on va, mais on y va. Merci Guillaume Bernard, politologue, d'avoir été avec nous pour parler de l'actualité politique et des élections présidentielles. À très bientôt pour une prochaine émission. Merci Vendry de Guerpel d'avoir été avec moi pendant toute cette émission. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été présents pendant toute cette émission. Je vous laisse à votre long week-end de l'Ascension et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle émission de Restons Courtois.
Ça suffit maintenant !